Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live. Nous sommes le 23 juillet 2021 et c'est la troisième journée de hausse consécutive. Alors quel renversement de situation cette semaine, c'est vraiment spectaculaire. Alors que lundi soir on était au bord du gouffre, on pensait qu'on allait tous mourir et que c'était la fin et que le crash était à nos portes. En l'espace de quelques jours, tout s'est renversé. Alors on va pas revenir sur ce qui s'est passé ces derniers jours, mais on va revenir sur ce qui s'est passé hier. Alors hier, clairement aujourd'hui, on se concentre uniquement, seulement en direction des chiffres trimestriels, puisqu'il n'y a que ça qui fonctionne. Le reste, on s'en fout. Les publications économiques, on s'en fout. On a cette grande capacité à fermer nos yeux et nos oreilles et à nous concentrer uniquement sur ce qui va bien. Alors au niveau des chiffres, ce qu'il faut d'abord retenir, c'est qu'il y a deux noms qui ressortent massivement hier soir. Alors plutôt hier soir, after close, mais qui finalement, c'est la bonne nouvelle de la journée, c'est les résultats stratosphériques de Snap, formidable, pulvériser les attentes, extraordinaire, génial, fantastique. Alors personnellement, je n'ai toujours pas compris leur business model, mais enfin, apparemment, ça a l'air génial. Tout le monde adore ça. C'est la nouvelle société fantastique. Bref, génial, fantastique. 17% de hausse hier soir after close. Elle ouvrira cet après-midi à 74,10. Rien à dire, champion du monde. Même chose chez Twitter. Alors un peu moins spectaculaire, mais Twitter c'est un peu plus vieux comme boîte. C'est presque une boîte de value, Twitter à côté de Snap. Et Twitter aussi a sorti des très bons chiffres. Le titre prenait 7% after close. Donc voilà, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est vraiment que les gens sont contents parce que les chiffres trimestriels sont globalement meilleurs que les attentes. Petit bémol au niveau des semi-conducteurs, puisque les chiffres de Texas Instruments ont déçu, c'était mercredi soir qu'ils ont déçu, et puis hier soir c'est ceux d'Intel qui ont déçu également. Alors des commentaires du CEO comme quoi lui il espère encore des consolidations dans le secteur, donc on peut s'attendre à une chasse aux sorcières et puis alors surtout à une chasse au takeover dans le secteur des semi-conducteurs. Soyez prêts à trouver les pépites qui vont se faire racheter dans les années à venir. Par contre, globalement, sur le secteur en général, ce qu'il faudra retenir, c'est que Intel a quand même publié des chiffres donc un peu décevants. On sent qu'il commence à avoir un petit peu chaud aux fesses par rapport à la concurrence vis-à-vis d'AMD. AMD qui cartonnait d'ailleurs un peu à l'image inverse d'Intel, puisque tout ce qui va mal chez Intel va bien chez eux. Donc c'est un petit peu l'effet contraire, l'effet balancier. Et donc le CEO a encouragé, enfin espère une consolidation dans le secteur, mais il a également annoncé que les shortages des semi-conducteurs n'allaient pas s'améliorer avant 2023. Donc on avait déjà eu Taiwan Semiconductor qui en avait parlé en début de semaine ou en fin de semaine dernière, je me souviens plus, et qui avait déjà mis en garde sur le fait que ce problème de shortage que personne ne comprend vraiment à la fin, n'allait pas se régler du jour au lendemain et qu'on allait devoir se le taper encore pendant quelques années. Donc du coup, un petit peu de dépression au niveau des semi-conducteurs, sans compter qu'il y avait un article, ce fait dans le Barron's aux États-Unis, où les gens étaient très prudents, voire très méfiants sur Nvidia. Alors, on peut comprendre, hein, après la performance complètement démentielle d'NVIDIA ces derniers temps, la préoccupation principale vient du fait que tout d'un coup, NVIDIA pourrait se retrouver confronté au fait que, cette problématique au niveau de la Chine qui est en train de rentrer dans le cadre des mineurs de Bitcoin, et il faut savoir que les mineurs de Bitcoin utilisent beaucoup les produits Nvidia, donc ceci expliquant cela. Alors pour l'instant, un petit peu de prudence, le titre finissait un petit peu légèrement dans le rouge hier, mais pas de quoi non plus paniquer, mais on sent un petit peu que la pression vient sur le secteur. Alors, je ne voyais peut-être pas pour la 287e fois que lorsque tout va bien dans les semi-conducteurs, c'est une bonne nouvelle, mais quand ça commence à aller moins bien, ça peut être le début d'un signal négatif. Enfin, on ne va pas en revenir parce que je ne vais pas non plus m'entêter dans le négativisme exacerbé, sachant que ça ne marche pas. De toute façon, pour l'instant, le marché est super strong. Quand vous regardez le S&P 500, par exemple, la question, ce n'est pas savoir si on va faire un nouveau plus haut. La question, c'est quand est-ce qu'on va le faire, ce nouveau plus haut. Donc voilà, globalement, une journée où on s'est concentré principalement sur les résultats trimestriels et sur l'interprétation qu'on en fait, puisque on sait qu'on est très très bas en termes d'attente. Aujourd'hui, on oscille dans une performance de 88 à 90% de chiffres meilleurs que les attentes durant ce trimestre. La semaine prochaine, ça va être le gros morceau. À signaler que mardi soir, il y a Apple qui va publier ses chiffres. Alors, on va être concentré là-dessus de manière assez conséquente. Apple qui, d'ailleurs, a tiré le secteur des GAFAM puisque tout le monde est revenu se positionner là-dessus hier soir parce qu'il fallait avoir des boîtes de croissance, mais des boîtes de croissance où on n'est pas trop perturbé par des petits problèmes inhérents au reste du marché ou au reste de l'économie. Reste de l'économie qui a également publié des chiffres pas terribles au niveau des jobless claims puisqu'il y avait une surprise à la hausse. Tout d'un coup, 50 000 personnes de plus qu'attendues ont demandé des indemnités chômage aux États-Unis. Alors, le marché a pris le parti de fermer ses oreilles et puis de se concentrer uniquement sur ce qui va bien, ce qui était plutôt intéressant. Hein. C'est vraiment ce côté où on veut pas voir les mauvaises nouvelles. Pour l'instant, on s'occupe que de ce qui va bien. Donc, c'est un petit peu ce qui a tiré l'indice hier soir. Mais globalement, on voit quand même que les jobless claims, ça fait 2 semaines ou 3 semaines qui sont un peu en dessus des attentes et qui repartent dans l'autre sens. Pour l'instant, il n'y a pas de quoi paniquer parce qu'apparemment, ce serait justifié par des rotations de production dans le secteur de l'automobile dans 2-3 états bien spécifiques, type le Kentucky, entre autres. Mais en tout cas, rien de catastrophique fondamentalement, ou en tout cas, quelque chose qu'on ne veut pas entendre. Intervention de la BCE également hier. Hein, Madame Lagarde a répété encore une fois de plus ce qu'elle nous dit depuis... depuis des semaines. J'ai un peu l'impression que je me répète là-dessus. Alors, ce matin, j'ai dû corriger plusieurs fois parce que je me disais, mais c'est moi, mais elle a déjà dit ça hier, la semaine dernière. Donc, grosso modo, la phrase qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est « La Banque Centrale Européenne s'engage à maintenir des taux bas pour une période prolongée et à soutenir l'économie de la zone euro jusqu'à ce que l'inflation se stabilise durablement à 2%. » Voilà. Donc, une fois qu'on aura atteint les 2%, on pourra en discuter. Donc, d'ici là, on devrait être dans une bonne trentaine d'années, de toute manière, parce qu'avant qu'on arrive à 2% de croissance en Europe, on n'a pas fini de rigoler. Donc voilà, soutien assuré, rassuré, répété encore et encore de la part de Madame Lagarde au niveau des marchés financiers. Donc voilà, belle journée qui se termine, belle semaine qui se termine beaucoup mieux que ce qu'on aurait pu penser par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Pour l'instant, les futurs sont légèrement en hausse, le Japon est fermé pour cause de Jeux Olympiques, youpi, et puis autrement, les deux marchés asiatiques principaux, Hong Kong et la Chine, sont en baisse, mais on s'en fiche puisqu'ils ont un peu leur vie propre de toute manière pour l'instant. Rebond du pétrole également, parce qu'on parle de consolidation, pas de redémarrage de la croissance, puisque finalement, on a déjà oublié les problématiques du variant Delta, c'est plus du tout quelque chose qui nous occupe. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis, idée du jour, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait se repositionner sur Roche. Alors, Roche a publié ses résultats hier, qui étaient excellents dans leur globalité, mais alors, finalement, elle se prend une tôle durant la séance parce que les analystes, ils ont été déçus, parce que finalement, le niveau de l'oncologie, il n'est pas revenu au même niveau qu'avant avant la pandémie. Bon, d'abord, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, les gens se sont préoccupés des autres maladies et pas du cancer depuis une année et demie. À tort ou à raison, ça c'est pas à moi de le décider, mais en tous les cas, Roche s'est fait bien massacrer à cause d'une déception et pas à cause des fondamentaux. Ce qui veut dire que quand on voit la force relative dans laquelle elle était ces derniers temps, je pense que les gens se sont surtout dit « Ah bah c'est l'occasion de prendre des profits et passer à autre chose ». Mais les résultats sont bons et l'avenir est positif. Donc je pense qu'il faut essayer de profiter de cette augmentation de la volatilité et cette baisse brutale sur le bon rush pour se positionner pour ceux qui n'en ont pas ou qui en voudraient encore un peu plus. Alors c'est difficile de rentrer à ces niveaux-là après une baisse de pratiquement 20 balles en quelques jours sur le bon rush. Donc moi ce que j'aurais tendance à vouloir faire c'est vendre des puts, comme on n'arrivera jamais à trouver le niveau d'entrée idéal. Moi, je vendrais des puts sur des strikes 330 ou 325 à 6-9 mois pour profiter de l'augmentation brutale de la volatilité en disant que peut-être il y en a encore un ou deux qui vont sortir ces prochains jours et on a une chance de se faire exercer en encaissant en plus la prime du put, ce qui serait relativement intéressant pour se positionner pour le rebond suivant qui devrait nous emmener en direction des 380, 390 en tout cas sur le bon rush. Donc, plutôt positif, plutôt constructif sur cette pharma-là. Je pense qu'il faut essayer de choper le train au bon moment. Et puis arrêter d'écouter ces théories à deux balles des analystes qui viennent dire « Oui, mais on attendait mieux parce qu'on est déçus. » C'est toujours les mêmes histoires. De toute façon, ils sont faux la plupart du temps. Donc, vendez des poutres sur Roche. Target avec des strikes 330 ou 325 à une échéance 6 à 9 mois. Alors, si vous comprenez pas le principe des ventes de poutres, ne le faites pas. Mais autrement, vous pouvez de toute façon observer le titre et essayer de le rechoper idéalement dans la zone de la moyenne mobile des 50 jours. Sur une petite exagération, je pense qu'à 330, on peut espérer la choper dans une tendance où les gens vont commencer à se débarrasser du titre et puis il y aura des downgrades puisque les analystes sont déçus. Donc voilà, faut profiter de ça et essayer d'aller à contre-courant sur le bon rush. La question du jour aujourd'hui, elle a trait à... Elle a trait aux semi-conducteurs. Alors, je vais essayer de faire bref sur les deux minutes qui me restent en présentation. Quelqu'un m'a écrit une longue question pour me dire, je ne comprends pas, justement, parce qu'on parlait au début de cette chronique, de ce podcast, on parlait de la pénurie des semi-conducteurs. Pas mal d'entreprises doivent arrêter leur production parce qu'on n'a pas assez de produits. Et puis, de l'autre côté, eh bien, on voit les entreprises productrices devraient voir leur cours exploser à la hausse puisque les carnets de commandes sont saturés jusqu'à l'année prochaine au moins. Or, lorsque l'on regarde l'évolution des cours type Micron, Taiwan Semiconductor, ON Semiconductor ou Advanced Micro Device, on constate depuis janvier 2021 que les cours évoluent dans une espèce de range latéral un peu volatile, certes, mais sans qu'il soit question de hausse franche comme on pourrait raisonnablement s'y attendre, ou alors il y a quelque chose qui m'échappe. Et pour être complet, Nvidia ou ASML ne semblent pas suivre cette même tendance et le SOX non plus. J'ai du mal à comprendre. Alors, effectivement, on peut comprendre, et comme je le disais tout à l'heure, les gens ne comprennent pas, et même moi, je comprends pas des fois, enfin, même moi, je parle plus d'une référence, mais le sentiment que ça donne aujourd'hui, c'est que, si vous voulez, on nous parle de shortage de semi-conducteurs, et c'est clair que tendanciellement et instinctivement, on aurait tendance à se dire, oui, mais alors, s'il n'y a plus assez de semi-conducteurs, les gens vont se jeter dessus, et puis on va acheter ce qu'il y a à acheter, donc du coup, les cours vont monter. Donc les boîtes vont gagner beaucoup plus d'argent. Le problème, c'est que les inventaires sont en chute libre. Le problème, c'est qu'ils ont bien des prix qui vont augmenter parce que la demande est là, et les prix augmentent parce que la demande est là, mais il n'y a plus rien à vendre. Donc après, si vous avez un truc qui est très cher, mais vous pouvez rien vendre, vous gagnez pas d'argent non plus. Et la problématique derrière, c'est que finalement, pour créer des semi-conducteurs, il faut du silicium, et pour tous ces genres de types de produits, il y a des boîtes qui font que ça. Ensuite, vous avez des boîtes qui ont les machines pour créer les semi-conducteurs, et vous avez des boîtes qui développent les semi-conducteurs. Donc quand vous avez tout ce petit monde ensemble, ils n'ont pas les mêmes cycles de production, ils n'ont pas les mêmes cycles de fonctionnement, ils n'ont pas la même manière de fonctionner, c'est pas la même chose qu'ils gagnent leur argent. Donc du coup, vous pouvez pas forcément comparer en disant « ils font des semi-conducteurs ». C'est la même boîte. Par exemple, Taiwan Semiconductor, c'est vraiment la boîte de base de production du produit qu'on a besoin. Et aujourd'hui, ben, ils le disent eux-mêmes, ils n'ont pas, non seulement pas assez d'usines pour produire et pas assez de fonctionnalités. Ils sont en train de construire des usines pour l'instant, mais ça prend du temps. Donc, du coup, il y a ce décalage. Et comme tout à l'heure le disait Intel hier soir, ça prendra encore du temps pour que finalement, ce shortage se remette en marche, si on veut bien, et se résorbe gentiment. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement difficile de savoir qui vont en bénéficier. ASML, ils vendent des machines qui permettent de créer les semi-conducteurs. Eux, ils sont un petit peu immunisés. Et c'est plutôt ce secteur qui continue à aller relativement bien. Nvidia, ils cartonnent parce que eux, ils ont des produits et surtout des cartes graphiques et ils targetent des secteurs bien spécifiques de l'industrie des semi-conducteurs. Et donc, du coup, ils sont un petit peu immunisés contre certaines choses. Et j'en parlais également dans la présentation précédente. Enfin, à l'intérieur du podcast, que finalement, Nvidia était en train de souffrir un peu parce que justement, bah, les miners de Bitcoin qui consomment beaucoup des produits Nvidia sont un peu en difficulté par rapport à ce qui se passe en Chine. Donc, ça peut se répercuter sur Nvidia. Donc, c'est un secteur qui est extrêmement complexe et on peut pas simplement se dire bah, si le concept des semi-conducteurs va bien, tout va bien. Et donc, le shortage n'est pas une garantie comme quoi tout va monter one block. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le jour où ça va se résorber, puis que les choses vont revenir à la normale, c'est un secteur qui va continuer à être très très bien et très très chaud. Et puisque de toute façon, aujourd'hui, dans les nouvelles technologies qu'on développe, sans semi-conducteurs, on voit mal comment on pourrait continuer dans cette direction. Donc voilà un petit peu pourquoi ce secteur a l'air un peu handicapé et un peu emprunté pour l'instant, parce qu'il faut vraiment aller creuser dans... Que font quelles boîtes de semi-conducteurs et qui fait quoi? Si vous comparez Taiwan Semiconductor à Intel en partant du principe que c'est du même secteur, effectivement, ils sont dans le même business au sens très large, mais au sens très précis, ça n'a rien à voir comme type de manière de fonctionner. Voilà, on pourrait en parler pendant des heures, mais je pense que c'est pas le but du jeu. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu. Si c'est pas le cas, il y a plein de petites vidéos que je suis en train de réfléchir à mettre en place. Et le shortage du semi-conducteur en est une, il faut juste que je trouve un peu de temps. Mais comme la problématique des journées, de mes journées est qu'il n'y a que 24 heures, je cherche et j'espère trouver bientôt. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end. La semaine prochaine, on va bien rigoler parce qu'il y aura un wagon de publications trimestrielles dont les stars type Apple et consorts. Et là, on aura peut-être des choses à se dire un petit peu plus intéressantes que les résultats de Snap ou les commentaires de Madame Lagarde. Très bon week-end à tous et à lundi.